L'encyclopédie, article de Jaucourt, charlatan. L'usage qu'on fait aujourd'hui dans notre langue, de même que dans la langue anglaise, l'empirique et le charlatan. C'est cette espèce d'homme qui, sans avoir d'études et de principes, et sans avoir pris de degré dans aucune université, exerce la médecine et la chirurgie sous prétexte de secrets qu'ils possèdent et qu'ils appliquent à tout. Il faut bien distinguer ces gens-là des médecins dont l'empirisme est éclairé. La médecine, fondée sur de vraies expériences, est très respectable. Celle du charlatan n'est digne que de mépris. Les faux empiriques sont des protées qui prennent mille formes différentes. La plupart grossiers et malhabiles n'attrapent que la populace. D'autres, plus fins, s'attachent aux grands et les séduisent. Depuis que les hommes vivent en société, il y a eu des charlatans et des dupes. Nous croyons facilement ce que nous souhaitons. Le désir de vivre est une passion si naturelle et si forte qu'il ne faut pas s'étonner que ceux qui dans la santé n'ont que peu ou point de foi dans l'habileté d'un empirique à secret, s'adresse cependant à ce faux médecin dans les maladies graves et sérieuses, de même que ceux qui se noient en s'accrochant à la moindre petite branche. Ils se flattent d'en recevoir du secours toutes les fois que les hommes habiles n'ont pas eu l'effronterie de leur en promettre un certain. Hippocrate ne guérissait pas toujours ni sûrement. Il se trompait même quelquefois. Et l'aveu ingénu qu'il a fait de ses fautes rend son nom aussi respectable que ses succès. Ceux, au contraire, qui ont hérité de leur père la médecine pratique et à qui l'expérience est échue par succession, assurent toujours et avec serment qu'ils guériront le malade. Alors, vous les reconnaîtrez à ce propos de Plaute. Per facileit quidem est, sanum futurum, mea ego fit probito fide. Rien de plus aisé que de le tirer d'affaire. Il guérira, c'est moi qui vous en donne ma parole d'honneur. Quoique l'impudence et le babil soient d'une ressource infinie, il faut encore à la charlatanerie quelques dispositions intérieures du malade qui en préparent le succès. Mais l'espérance d'une prompte santé d'un côté, celle d'une bonne somme d'argent de l'autre, forment une liaison et une correspondance assurée. Ainsi, la charlatanerie est-elle très ancienne? Parcourez l'histoire médicinale des Égyptiens et des Hébreux, et vous y verrez que les imposteurs, qui profitant de la faiblesse et de la crédulité, se vantaient de guérir les maladies les plus invétérées par leurs amulettes, leurs charmes, leurs divinations et leurs spécifiques. Les Grecs et les Romains furent à leur tour inondés de charlatans en tout genre. Aristophane a célébré un certain Eudamos qui vendait des anneaux contre la morsure des bêtes venimeuses. On appelait Oklagogoi ou simplement Agirtae, du mot Ageirein, assemblée, ceux qui par leur discours assemblaient le peuple autour d'eux. Circulatores, circuitores, circumforanei, ceux qui couraient le monde, ceux qui montaient sur le théâtre pour se procurer la vente de leurs remèdes. Kellurari medici, ceux qui se tenaient assis dans leur boutique en attendant la chalandise. C'était le métier d'un chariton de qui Galien a tiré quelques descriptions de médicaments. C'était celui d'un Claudius d'Ancône qui était encore empoisonneur et que Cicéron appelle pharmacopola circumforaneus. Quoique le mot pharmacopola s'appliquât chez les anciens, tous ceux en général qui vendaient des médicaments sans les avoir préparés, on le donnait néanmoins en particulier à ceux que nous désignons aujourd'hui par le titre de « butler ». nos Bateleurs, nos Eudamus, nos Caritons, nos Clodius, ne diffèrent point des anciens pour leur caractère. C'est le même génie qui les gouverne, le même esprit qui les domine, le même but auquel ils tendent, celui de gagner de l'argent et de tromper le public, et toujours avec des sachets, des peaux divines, des calottes contre l'apoplexie, l'hémiplégie, l'épilepsie, etc. Voici quelques traits des charlatans qui ont eu le plus de vogue en France sur la fin du dernier siècle. Nous sommes redevables à M. Dionys de nous les avoir conservés. La connaissance n'en est pas aussi indifférente à l'humanité qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. Le marquis Caretto, un de ces aventuriers hardis, d'un caractère libre et familier, qui se produisant eux-mêmes protestent qu'ils ont dans leur art toute l'habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur leurs paroles, perça la foule, parvint jusqu'à l'oreille du prince et en obtint la faveur et les pensions. Il avait un spécifique qu'il vendait 2 louis la goutte. Le moyen qu'un remède si cher ne fut pas excellent. Cet homme entreprit, monsieur le maréchal de Luxembourg, l'empêcha d'être saigné dans une fausse pleurésie dont il mourut. Cet accident décria le charlatan, mais le grand capitaine était mort. 2 capucins succédèrent à l'aventurier d'Italie. Ils firent publier qu'ils apportaient des pays étrangers des secrets inconnus aux autres hommes. Ils furent logés au Louvre. On leur donna 1 500 livres par an. Tout Paris accourut vers eux. Ils distribuèrent beaucoup de remèdes qui ne guérirent personne. On les abandonna et ils se jetèrent dans l'ordre de Cluny. L'un, qui se fit appeler l'abbé Rousseau, fut martyr de la charlatanerie et aima mieux mourir que de se laisser saigner. L'autre, qui fut connu sous le nom de l'abbé Aignan, ne se réserva qu'un remède contre la petite vérole, mais ce remède était infaillible. 2 personnes de la première qualité s'en servirent. L'un était monsieur le duc de Roquelaure, qui en réchappa parce que sa petite vérole se trouva d'une bonne qualité. L'autre, monsieur le prince d'Épinois, qui en mourut. Ah, en voici un pour les urines. On l'appelait le médecin des bœufs. Il était établi à Seignelay, bourg du comté d'Auxerre. Il prétendait connaître toutes sortes de maladies par l'inspection des urines. Charlatanerie facile, usée et de tout pays. Il passa quelque temps, même pour un oracle. Mais on l'instruisit mal, et il se trompa tant de fois que les urines oublièrent le chemin de Seignelay. Le père Guiton, cordelier, ayant lu dans un livre de chimie la préparation de quelques médicaments, obtint de ses supérieurs la liberté de les vendre et d'en garder le profit, à condition d'en fournir gratis à ceux du couvent qui en auraient besoin. Monsieur le prince d'Isanguin et plusieurs autres personnes éprouvèrent ces remèdes, mais avec un si mauvais succès que le nouveau chimiste en perdit son crédit. Un apothicaire du comtat d'Avignon se mit sur les rangs avec une pastille telle qu'il n'était point de maladie qui ne dût céder à sa vertu. Ce remède merveilleux, qui n'était qu'un peu de sucre incorporé avec de l'arsenic, produisit les effets les plus funestes. Et ce charlatan était si stupide que prenant pour 1 000 pastilles, 1 000 grains d'arsenic qu'il mêlait, sans aucune précaution, avec autant de sucre qu'il en fallait pour former les 1 000 pastilles, la distribution de l'arsenic n'était point exacte, en sorte qu'il y avait telle pastille chargée de très peu d'arsenic et telle autre de 2 grains et plus de ce minéral. Le frère Ange, capucin du couvent du faubourg Saint-Jacques, avait été garçon apothicaire. Toute la science consistait dans la composition d'un sel végétal et d'un sirop qu'il appelait mésentérique et qu'il donnait à tout le monde, attribuant à ce sirop la propriété de purger avec choix les humeurs qu'il fallait évacuer. C'était, dit-on, un bon homme qui le croyait de bonne foi. Madame la Dauphine, qui était indisposée, usa de son sel et de son sirop pendant 15 jours. Et n'en recevant aucun soulagement, le frère Ange fut congédié. L'abbé de Belzé lui succéda à Versailles. C'était un prêtre normand qui s'avisa de se dire médecin. Il purgea Madame la Dauphine 22 fois en 2 mois. Et dans le temps où il est imprudent de faire des remèdes aux femmes, la princesse s'en trouva fort mal, et Mesdemoiselles Bessola et Patrocle, deux de ses femmes de chambre, qui avaient aussi fait usage de la médecine de l'abbé, en contractèrent un dévouement continuel, dont elles moururent l'une après l'autre. Le sieur du Cerf vint ensuite avec une huile de guaillac qui rendait les gens immortels. Un des aumôniers de Madame la Dauphine, au lieu de se mêler de son ministère, s'avisa de proposer le sieur du Cerf. Le charlatan vit la princesse, assura qu'il en avait guéri de plus malade qu'elle, courut préparer son remède, revint et trouva la princesse morte. Et cet homme, qui avait le secret de l'immortalité, mourut 3 mois après. Qu'est-ce qui a fait autant de bruit? Qu'est-ce qui a été le plus à la mode que le médecin de Chaudray? Oh, Chaudray est un petit hameau composé de 5 ou 6 maisons auprès de Mantes. Là, il se trouva un paysan d'assez bon sens qui conseillait aux autres de se servir tantôt d'une herbe, tantôt d'une racine. Ils l'honorèrent du titre de médecin. Sa réputation se répandit dans sa province et vola jusqu'à Paris, d'où les malades accoururent en foule à Chaudray. On fut obligé d'y faire bâtir des maisons pour les y loger. Ceux qui n'avaient que des maladies légères guérissaient par l'usage de ces plantes pulvérisées ou racines desséchées. Et les autres s'en revenaient comme ils étaient allés. Le torrent de malades dura cependant 3 à 4 années. C'est un phénomène singulier que l'attrait que la cour a pour les charlatans. C'est là qu'ils tentent tous. Le sieur Bourret y débarqua avec des pilules merveilleuses dans les coliques inflammatoires. Mais, malheureusement pour la fortune de celui-ci, il fut attaqué lui-même tout en débarquant de cette maladie que son remède augmenta tellement qu'il en mourut en 4 jours. Voilà l'abrégé historique des plus fameux charlatans. Ce furent, comme on voit, un marquis étranger, des moines, des prêtres, des abbés, des paysans, tous gens d'autant plus assurés du succès que leurs conditions étaient plus étrangères à la médecine. La charlatanerie médicinale n'est ni moins commune ni moins accréditée qu'en Angleterre. Il est vrai qu'elle ne se montre guère que sur les places publiques, où elle s'est bien étalée à son avantage la manie du patriotisme. Tout charlatan est le premier patriote de la nation et le premier médecin du monde. Il guérit toutes les maladies, quelles qu'elles soient, avec ses spécifiques, et la bénédiction de Dieu, c'est toujours une des conditions de l'affiche. Je me souviens, dit M. Addison, d'avoir lu à Hammersmith un de ses patriotes qui disait un jour à son auditoire « Je dois ma naissance et mon éducation à cet endroit. Oh, je l'aime tendrement. Et en reconnaissant des bienfaits que j'y ai reçus, je fais présent d'un écu à tous ceux qui voudront l'accepter. » Chacun s'attendait, la bouche béante, à recevoir la pièce de 5 shillings. Monsieur le docteur met la main dans un long sac, en tire une poignée de petits paquets et dit à l'assemblée: « Messieurs, je les vends d'ordinaire 5 schelins, 6 sols, mais en faveur des habitants de cet endroit, que j'aime tendrement, j'en rabattrai 5 schelins. » On accepta son œuvre généreuse, ses paquets sont enlevés, les assistants y répondu les uns pour les autres, qu'il n'y avait point d'étrangers parmi eux, et qu'ils étaient tous ou natifs ou du moins habitants d'Hammersmith. Comme rien n'est plus propre pour en imposer au vulgaire que d'étonner son imagination et entretenir sa surprise, les charlatans des îles britanniques se font annoncer sous le titre de docteurs nouvellement arrivés de leur voyage, dans lesquels ils ont exercé la médecine et la chirurgie par terre et par mer, en Europe et en Amérique, où ils ont appris des secrets surprenants, et d'où ils apportent des drogues d'une valeur inestimable pour toutes les maladies qui peuvent se présenter. Les uns suspendent à leurs portes des monstres marins farcis de paille, des os monstrueux d'animaux, etc. Et ceux-ci instruisent le public qu'ils ont eu des accidents extraordinaires à leur naissance et qu'il leur est arrivé des désastres surprenants pendant leur vie. Cela donne avis qu'ils guérissent la cataracte mieux que personne, ayant eu le malheur de perdre un œil dans telle bataille au service de la patrie. Chaque nation a ses charlatans, et il paraît que partout ces hommes mettent autant de soin à étudier le faible des autres hommes que les véritables médecins à connaître la nature des remèdes et des maladies. Et en quelque lieu du monde qu'on soit, il n'y a presque pas un qu'on ne puisse reconnaître au passage de Plot que nous avons cité plus haut et congédié avec la recette suivante. Oui, elle est d'un seigneur anglais. Il était dans son lit, cruellement tourmenté de la goutte, lorsqu'on lui annonça un charlatan qui avait un remède sûr contre ce mal. Le lord demanda si le docteur était venu en carrosse ou à pied. « À pied, lui répondit le domestique. « Eh bien, répliqua le malade, va dire à ce fripon de s'en retourner, car s'il avait le remède dont il se vante, il roulerait en carrosse à 6 chevaux, et je le serais allé chercher moi, et lui offrir la moitié de mon bien pour être délivré de mon mal. » Cet article est l'extrait d'un excellent mémoire de M. le chevalier de Jaucourt que les bornes de cet ouvrage nous forcent à regret d'abréger.